Une harmonie transcendante, alors, une sorte d'harmonie qui fait
Oui,
bouger les
c'est
choses.
ça. Et ce qui fait que l'histoire est un mystère, vous voyez. Comme disait Henri-René Marot, tous les grands historiens de l'Église du siècle passé, j'ose pas dire du millénaire passé, parce qu'on y a un pied, nous les vieux. Hein. Donc, des gens comme par exemple Marot, le cardinal Danielou, etc., montraient bien qu'il y a un mystère du temps. Vous voyez, nous, on a une vision très physique du temps, une vision où chaque instant est comparable à l'instant précédent, enfin, une vision sans qualité, en quelque sorte, du temps. Or, le temps, c'est un peu comme les équations de Leibniz, là, les intégrales, précisément, ça intègre le temps passé. Enfin, vous voyez, on commence pas n'importe où dans l'histoire de l'Église. On commence à la plénitude du temps, comme au kairos, comme dit l'Évangile, à cette plénitude des temps qu'est l'incarnation. Et puis, il y a d'abord, on peut dire, il y a une contingence des lieux et des moments qui devient quelque chose de nécessaire, vous voyez. La contingence des lieux, c'est le monde sémitique. La contingence du moment, c'est il y a 2000 ans dans l'univers de la koiné grecque. Et puis, ce lieu, cette culture, cette culture parcellaire qui est d'un bout de la carte du monde, hein, et ce moment culturel, eh bien, il va devenir le noyau à partir duquel d'autres strates vont se déposer, d'autres sédiments vont se déposer. Donc, on ne commence pas n'importe où l'intelligence de la foi. On la commence et on voit bien en plus comment elle s'enracine dans plusieurs siècles, voire millénaires, d'histoire hébraïque. Alors, tout ça pour dire que le marcionisme nous guette encore aujourd'hui. On a vu il y a quelques décennies des gens qui disaient on n'a pas besoin de pain et de vin pour célébrer l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que c'est méditerranéen. Alors, si on est africain, le vin, on n'en a jamais eu, et le pain, on n'en mange pas non plus. Donc, manioc et je sais pas quoi, moi. Voilà. Et puis, ailleurs, on dira riz et saké, vous voyez? Eh ben non. On ne peut pas commencer à être chrétien en faisant. Alors, si on peut commencer à être chrétien en l'an 2000, si on est une peuplade évangélisée seulement à cette période-là, songez par exemple à certains peuples du Laos ou du Cambodge, hein, qui ont été évangélisés seulement il y a un siècle, ou 50 ans. Mais néanmoins, on doit se greffer sur une communauté qui a une histoire. Voilà. Et ce qui était contingent, le fait que ce soit en Palestine, avec une culture marquée par la vigne, l'olivier, et puis le figuier, et puis le pain, quoi, la farine, eh bien, ça devient normatif pour tous après. Vous voyez? Autrement dit, l'histoire, elle a un sens et puis elle intègre. C'est une histoire intégratrice. Et alors après, bien sûr, elle va intégrer donc des apports nouveaux, mais toujours en les jugeant à partir de son noyau, de ce qui est son cœur. C'est pour ça que nous, même si on a une histoire qui va vers la parousie, vers l'achèvement eschatologique, hein, vers la Jérusalem céleste qui descend d'auprès de Dieu. Néanmoins, ce qui est le guide de ce mouvement, c'est quelque chose qui nous a été donné dans le passé. Et ça, je l'avais dit déjà dans les cours au moment du Concile, l'interprétation de l'école dite de Bologne. Très marqué par la pensée hégélienne, dit qu'au moment où un texte est produit, il devient dépassé dans la mesure où l'esprit qui en est l'origine, eh bien, l'esprit va au-delà, et donc le texte n'est plus qu'une phase dépassée du mouvement de l'esprit. Donc tout texte devient en quelque sorte devient une réalité obsolète. Et toute personne qui s'attache à un texte devient, pour prendre le langage sartrien, un salaud. Hein, parce qu'il il est infidèle au mouvement de l'esprit, ou à l'esprit qu'il habite, puisque c'est le mouvement de l'esprit pousse toujours à aller plus loin. Et nous, on ne peut pas dire ça, parce que, et pour des raisons dogmatiques.
Parce qu'on est des salauds.
Non, on ne peut pas dire ça parce que, pour des raisons dogmatiques, parce que ce qui est le cœur de l'histoire, pour nous, c'est celui qui en est en même temps le terme ultime, c'est-à-dire le verbe qui s'est dit il y a 2000 ans, mais comme dit l'Épître aux Hébreux, qui est d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et donc qui est un éternel présent. Voilà. Et c'est donc cette parole qui a été recueillie dans les écrits canoniques, qui est en quelque sorte ce qui surplombe toute l'histoire et tout son développement, et donc qui juge aussi tout ce développement de l'interprétation, de l'explicitation de la doctrine. Vous voyez, donc on est dans une situation où les moments d'histoire ne sont pas, comme on dit en droit, ne sont pas fongibles. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Ils ont un ordre. Le temps a un ordre, et il y a aussi des ordres d'importance. Il y a le temps des fondations, le temps des explicitations, etc. Donc il y a des temps qui ont plus d'importance, de valeur que d'autres. Oui. Le temps où on fonde l'Église, le temps de la plantation de l'Église. Je suis très impressionné par les 40 jours après Pâques. Le temps qui part de la Pentecôte, de Pâques à l'Ascension. C'est le temps où le Christ plante l'Église. C'est un temps qui ne se reproduira jamais plus. Voyez, après, on pourrait dire qu'il y a d'autres temps de fondation comme ça qui ne se reproduiront plus. Puis il y a d'autres temps qui sont des temps, des temps plus ordinaires, des temps d'évangélisation, d'expansion du message, d'intériorisation, d'explication, qui, eux, sont moins, je dirais, moins fondateurs, mais qui néanmoins laissent des traces qui inspirent les autres, donc les temps suivants, vous voyez. Donc ça, juste quelques petits détails comme ça sur l'histoire, parce que souvent, nous, l'histoire, vous voyez, on fait une flèche, on met des petits tirets, puis on se dit, ben voilà, ça fait tous les siècles, toc, 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 mais tous les siècles ne sont pas pareils, de notre point de vue. Hein. Je pense que d'ailleurs, que d'un point de vue profane, c'est un peu pareil aussi, on ne peut pas faire l'économie. Enfin, on voit bien qu'ici, aujourd'hui, on cherche à faire l'économie, justement, des temps un peu fondateurs de nos cultures aussi, hein, où on a essayé de se débarrasser du latin, du grec, pour envoyer balader la culture fondamentale européenne. Donc il y a aussi des moments où on obscurcit le temps, on fait des damnatio memoriae, comme on disait à l'époque romaine. On oublie ce qui s'est passé à une période. Alors parfois, c'est le contraire. On a tendance à ne voir plus que certaines choses, peut-être les heures les plus noires de notre histoire, n'est-ce pas, nous empêcher d'aller plus loin et disons, voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors, revenons à notre patrologie. Donc, le père Émile Aman continue en disant: la patrologie finira donc par être une histoire littéraire des idées chrétiennes de l'Antiquité. Et là, vous avez une merveilleuse définition de la patrologie. Une histoire littéraire des idées chrétiennes de l'Antiquité. Donc, cinq éléments vont en quelque sorte jalonner ou faire comprendre notre cours.
Excuse-moi, mais l'Antiquité...
Alors l'Antiquité, vous allez me dire encore, c'est fou.
L'Antiquité.
Ah si, c'est l'Antiquité.
Ça va jusqu'au 5e, 4e.
Oui, même plus. Allez, on peut aller jusqu'au 6e. Jusqu'à Boès, allez. Oui, Boès. Et puis bon, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où l'Antiquité se prolonge. regardez même l'Empire d'Orient. Et puis, il y a des endroits où l'Antiquité s'est un petit peu arrêtée brusquement. Par exemple, l'Antiquité dans l'Angleterre, une fois que les légions partent au IIIe siècle, on est vite dans le haut Moyen-Âge. Hein.
Oui,
c'est
oui,
ça.
C'est ça aussi.
Donc, alors, on aura... Alors voilà, c'est ça. L'Antiquité, le haut Moyen-Âge, c'est la, déjà par nature, la distinction est floue, mais en plus, ça varie selon les régions. Selon que les barbares sont prédominants ou que, la vieille culture gréco-latine survit. D'ailleurs, vous savez, la périodisation du temps, c'est toujours un petit peu, arbitraire. Hein, la fin du Moyen-Âge, moi je la date à 14, je la mets en 1450, au moment de Nicolas V à peu près, mais... c'est parce que j'ai une vision d'historien de l'Église. Hein. Pour d'autres, 1450, c'est encore le plein Moyen-Âge. Quand on pense à Jeanne d'Arc, on pense au Moyen-Âge. Mais c'est la fin du Moyen-Âge, les dernières décennies du Moyen-Âge. Regardez, vous pensez à Jeanne d'Arc, vous pensez à des armures, des cuirasses, des chevaleresques, etc., etc. Vous dites, on est en plein Moyen-Âge. Eh bien non, on est dans les dernières décennies du Moyen-Âge. Et en Italie, on est déjà dans les premières décennies de la Renaissance. Vous voyez, c'est drôle, non?
Enfin, Jacques Le Goff disait que le Moyen-Âge avait duré jusqu'en 1914.
Oui, il n'a pas tort. Mm-hmm. Hein. Par certains aspects, oui.
Mais l'Antiquité, oui, c'est quand les Romains... Enfin, la fin de l'Antiquité, quand les Romains ont...
Oui, c'est ça. Mais alors, justement, ça se prolonge dans le... Alors, l'Antiquité, elle se prolonge parfois dans les institutions, dans la pensée, dans les idées, dans la religion, parce que certains barbares vont vite assimiler l'héritage et puis le faire revivre très vite. Et puis d'autres, ça remettra plus de temps à revenir.
C'est comme l'Ancien Régime avec Péguy. Pour Péguy, l'Ancien Régime a continué jusqu'à 1900.
Ça
dépend comment on le voit.
Le moment où la technique l'emporte sur l'humain, c'est en gros c'est le moment des premières guerres boucheries industrielles qu'on passe à un autre paradigme. Un peu. Alors, revenons donc à nos patrologues. Alors, toujours le père Aman qui continue. Cette histoire littéraire du christianisme antique ne serait néanmoins pas complète si elle faisait exclusivement état de ceux qu'au sens défini ci-dessus, on y reviendra, on appelle les pères de l'Église. De tout temps, et cela remonte jusqu'à l'époque de Saint Jérôme, donc 4e siècle, les savants qui ont étudié les pères leur ont associé ces auteurs dont l'autorité est moindre au point de vue dogmatique, qui ne laissent pas néanmoins d'avoir leur intérêt pour l'histoire des idées, et que nous avons appelé les écrivains ecclésiastiques. Alors les écrivains ecclésiastiques, c'est ceux qui précisément n'ont pas été canonisés, et qui ne sont pas considérés comme des repères absolus de l'orthodoxie. Par exemple, Tertullien, qui a fini hérétique, Origène, dont on a défini l'orthodoxie après Origène, donc il n'était pas formellement hérétique, mais sur certains points, il a des idées qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que l'Église a défini plus tard. Eusèbe de Césarée, Arnob, qui était un apologète, etc. Donc, un certain nombre, vous voyez, d'autres auteurs qui ont produit des choses capitales. Origène et Tertullien sont des sommets dans la pensée chrétienne. Et cependant, sur certains points, leur doctrine n'est pas sûre. Hein, et même Tertullien, il finit formellement dans l'hérésie.
Il y a quoi chez Origène qui est fondamental ?
Chez Origène, il y a une vision très platonicienne du monde, par exemple. L'être humain est le produit de la chute.
C'est de la gnose.
Comment ?
C'est de la gnose.
Oui, c'est un peu gnostique. Oui.
Mais pourquoi est-ce qu'on retient absolument Origène comme étant fondamental ?
Ah, par ses commentaires de l'écriture. Il a des des tonnes de sermons qui sont un vrai quelque chose de remarquable de ce point de vue de l'exégèse allégorique, dont l'école dite d'Alexandrie. Autrement dit, à travers l'écorce un peu rugueuse du texte biblique, surtout de l'Ancien Testament, découvrir toutes les harmonies christologiques. Ça, Origène le fait d'une manière remarquable. Puis il a été un confesseur de la foi. Hein. En fait, il est mort quand même de des tortures qu'il a endurées au moment des persécutions.
Pourquoi il n'a pas été canonisé alors ?
Parce qu'il avait, alors à l'époque, avant d'être. Oui, c'est ça, parce que avant de se lancer dans l'exégèse allégorique, il s'était lancé dans l'exégèse un peu littérale. Et quand il avait dit que le Seigneur parlait d'être eunuque pour le royaume des cieux, il s'y est mis, quoi. Oui, c'est ça. Alors, c'est des choses qui se font pas.
Il s'est uniquement pour ça.
Non, pas que, je pense aussi parce que après dans sa doctrine, enfin dans ses écrits très importants, notamment dans son traité Peritonarchon sur les principes, il y avait des choses qui ont été reconnues comme étant trop gnostiques ou...
Parce que s'il est martyr, il n'y a pas...
Ah oui, alors il est martyr, disons, il est confesseur de la foi, il est mort quelques années après.
Ah, il est mort quelques années après. Oui.
Enfin, il était quand même bien amoché par la persécution.
C'était à quelle époque ?
Quatrième siècle, fin troisième, je crois.
Origène, c'est avant.
Origène, oui, c'est avant. Oui, troisième siècle. Troisième siècle. C'est 200 à 260.
C'était un clerc ?
Ah oui. Et il était diacre.
Il était dans quel pays exactement ?
En Égypte. Oui. Et souvent, c'était lui que le patriarche d'Alexandrie faisait prêcher. Enfin, alors, Aman nous dit d'aller plus loin. Il nous dit qu'il faut aller plus loin encore et se mettre une fois de plus à l'école de Saint Jérôme. Celui-ci, dans le De Viris Illustribus, n'a pas hésité à faire une place non seulement aux écrivains ecclésiastiques, donc ceux qui étaient passants, mais aux hérétiques qualifiés eux-mêmes. On relève dans son catalogue un certain nombre de noms qui figurent avec la mention Hériarchès. Sans compter Philon le Juif, donc qui était contemporain de Jésus, qui vivait à Alexandrie, d'une part, et le païen Sénèque, de l'autre, qui obtiennent eux aussi une mention. Donc vous voyez, on trouvera également des hérétiques. Donc c'est important de comprendre la pensée de Marcion, par exemple, pour pouvoir aussi saisir sa réfutation par saint Irénée. Donc pour pouvoir entrer dans la pensée des pères de l'Église, il faut aussi entrer dans la pensée de ceux qui sont opposés à eux, que ce soit des juifs, des païens ou des hérétiques. On aura les trois types. Vous voyez, saint Jérôme va parler de Philon d'Alexandrie, il va parler aussi de Sénèque. Alors avec... Vous savez, il n'est pas impossible, mais il n'est pas certain non plus, que Paul et Sénèque aient eu des relations épistolaires. Enfin, ça pourrait avoir eu lieu, mais on n'en est pas vraiment certain. Et le bon père Aman continue en disant « S'il y a intérêt, en effet, à écrire l'histoire littéraire des idées chrétiennes, on ne le fera d'une manière adéquate que si l'on situe dans son milieu chacun des écrivains ecclésiastiques. Or, une bonne partie des ouvrages composés par ceux-ci visent des adversaires qui, tout en ayant rompu avec l'Église, ne laissent pas de se dire chrétiens. » Ça, sont les hérétiques. Hein. L'étude de la littérature hérétique, et à un degré moindre, les attaques dirigées par les païens contre le christianisme, par exemple Cels, paraît indispensable pour donner toute sa portée à l'histoire littéraire ecclésiastique. Alors cette histoire littéraire ecclésiastique qui embrasse donc les saints-pères, les écrivains ecclésiastiques, les hérétiques et même on peut dire les païens ou les juifs qui ont pris position contre le christianisme, ou alors pas contre mais à côté, je pense à Flavius Joseph, par exemple, Elle remonte jusqu'au Nouveau Testament, dont la détermination du canon couvre les premiers siècles chrétiens. Ici encore, nous dit le père Amann, saint Jérôme avait donné l'exemple qui ouvre son Deveris Illustribus par les notices littéraires des auteurs inspirés, à commencer par saint Pierre. Alors, nous nous bornerons à la littérature, qui suit. On ne va pas faire de la théologie biblique non plus. Mais vous voyez, saint Jérôme avait bien conscience que le Verbe s'étant dit, eh bien, l'histoire littéraire du Verbe fait papier, elle commence avec les évangélistes, à vrai dire avec saint Paul, qui est le premier à écrire quelque chose sur le christianisme, et puis jusqu'au Jean de son temps, c'est-à-dire le 4e siècle, mais nous, que nous prolongeons. Alors, là aussi, arbitrairement, enfin, pas vraiment arbitrairement, mais conventionnellement, on achève la patrologie, enfin, les derniers pères, avec finalement des gens qui vont résumer ce qui s'est fait avant, hein, des compilateurs. Isidore de Séville au 7e siècle dans l'Espagne visigothique, saint Jean de Damas dans un Proche-Orient stérilisé désormais par la conquête arabe et qui va justement cristalliser tout ce qui s'était produit avant dans son défilé orthodoxa, etc. Donc on va arriver à une période un petit peu d'essoufflement de la pensée. Et en même temps de cristallisation de ce qui s'est fait avant. Et à ce moment, on achèvera le moment, entre guillemets, patristique.